Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsio.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mardi Politique. Notre invité ce soir, le secrétaire général du Front National. Bonsoir Nicolas Bay.
Bonsoir.
Dans la seconde partie de cette émission, il sera très longuement question des élections départementales. Et quel est votre programme? Quels sont vos objectifs pour ce scrutin? Voici quelques-unes des questions que nous vous poserons. Avant cela, nous allons nous pencher sur l'actualité de ces derniers jours, ces dernières heures. À mes côtés ce soir, pour vous interroger, Marc Perelman de France 24. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Et Dominique Albertini du quotidien Libération. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Le Front National soupçonné de fraude au Parlement européen. Information révélée hier, en cause le salaire versé à 20 assistants de députés. Travaillait-il réellement pour le Parlement ou ont-ils une autre activité en tant que parlementaire européen, en tant que député européen, Nicolas Bay? Que répondez-vous à ces accusations?
Très simplement, d'abord ça participe d'une petite opération de M. Schulz, le président du Parlement européen, qui est d'abord un député socialiste allemand et donc qui, sans doute sur les ordres ou en tout cas en connivence avec Manuel Valls, il va de sa petite agression contre le Front National. Les choses sont très simples. Nous avons, tous les députés européens ont des assistants parlementaires. Ces assistants parlementaires sont là précisément pour les assister dans leur travail parlementaire. Il y a des assistants qui sont installés à Bruxelles ou à Strasbourg, c'est-à-dire sur les lieux du Parlement européen, sur les lieux de travail du Parlement européen. Et puis il y en a qui ont le statut d'assistant local, expressément prévu par le Parlement européen, et qui sont donc aux côtés des députés dans sur leur lieu de travail habituel. Et donc pour les dirigeants politiques du Front National, ça peut être évidemment le siège du Front National, tout ça est prévu, mais soyons très clairs, nos assistants parlementaires, qui sont en effet rémunérés sur une enveloppe spécifique du Parlement européen, travaillent pour uniquement dans le cadre de l'activité parlementaire des députés.
Ils ne travaillent pas pour le Front National
en
général.
Non, il n'y a pas du tout de mélange des gens. Ça n'empêche pas, soyons clairs, que les assistants parlementaires aient par ailleurs un engagement politique militant. Et ça, je crois que c'est vrai dans tous les partis.
Donc ça veut dire qu'ils sont encartés au Front National?
Ils sont encartés, ils peuvent même avoir des responsabilités bénévoles dans le mouvement. Ça n'est pas choquant, ils peuvent être candidats à des élections. Ce serait quand même extraordinaire que les seuls citoyens qui n'auraient pas la possibilité d'avoir un engagement politique ou électoral soient les assistants parlementaires des députés.
Dominique Albertini.
Ce qu'a l'air de dire le Parlement européen, c'est qu'on parle d'assistants dont l'essentiel des revenus proviennent du Parlement européen, mais qui consacreraient l'essentiel de leur temps à des tâches relevant plutôt de la vie courante du parti Front National et pas des questions européennes.
Oui, mais ça, monsieur Albertini, ça s'appelle de la calomnie. Parce que il n'y a pas l'ombre d'un début de preuve à ces assertions. En l'occurrence, les assistants parlementaires travaillent sur les dossiers du Parlement européen en soutien aux députés sur leur activité parlementaire. Et ce qui est Monsieur Schulz semble affirmer des choses sans apporter le moindre commencement de preuve dans cette affaire. Donc il se comporte comme un petit militant socialiste, comme un petit dirigeant même socialiste, mais évidemment il sort totalement de son rôle comme président du Parlement européen, il devrait prendre un peu de hauteur. Mais enfin manifestement en ce moment, les socialistes, quand ils ont des fonctions importantes et exécutives, ont un peu de mal à prendre de la hauteur par rapport à la petite joute politicienne.
Dominique Albertini après Marc Perlman.
Les assistants parlementaires accrédités, il y en a 4 sur les 20 en question sont des gens qui sont censés résider soit à Strasbourg, soit à Bruxelles, soit au Luxembourg. Est-ce que c'est les cas, est-ce que c'est le cas de tous les assistants parlementaires accrédités du Front National?
Sur les cas précis des assistants parlementaires, d'abord nous réserverons quand même nos réponses à l'OLAF s'il nous pose des questions, puisque l'OLAF a été saisi. Mais pour vous répondre, c'est très simple. Les assistants parlementaires accrédités, en général, leur lieu de travail principal, c'est Bruxelles ou Strasbourg. Ils sont présents en tout cas au moment des sessions parlementaires et des réunions du Parlement européen, mais ils peuvent très bien être amenés à suivre les députés dont ils sont les assistants dans le cadre de déplacements en dehors des lieux de travail du Parlement européen. Les assistants accrédités à Bruxelles ne sont pas obligés d'être toute la journée à Bruxelles si le député européen a besoin d'eux, encore une fois, dans l'exercice de son mandat parlementaire ailleurs qu'à Bruxelles ou à Strasbourg.
Marc Perelman.
Vous pensez donc vraiment que Martin Schulz, le président du Parlement européen, peut saisir l'office de lutte antifraude comme ça, sans éléments de fait, juste par une simple manœuvre politicienne?
N'importe quel député peut saisir l'OLAF, et l'OLAF est d'ailleurs obligé, c'est une procédure automatique, d'enquêter.
Non mais qu'il puisse le faire, oui, mais il le fait, d'après vous, sciemment, sans avoir raison de le faire.
Absolument, il le fait comme une petite manœuvre politicienne à 10 jours des élections départementales. Voilà, c'est
grave.
Oui, je je pense que c'est assez grave, c'est une dérive assez inquiétante. Et puis évidemment, comme toujours, ce genre d'enquête, de soupçons est toujours ciblé à l'encontre du Front National. En l'occurrence, nous sommes irréprochables. En l'occurrence, tous les contrats de travail des assistants parlementaires ont été, encore une fois, minutieusement vérifiés par l'administration du Parlement européen, qui a d'ailleurs parfois fait des commentaires ou demandé des compléments d'information. Donc au début du mandat, c'est-à-dire en juillet dernier, tout a été visé, tout a été fait dans les règles. Voilà, je crois qu'on nous cherche un peu des poux dans la tête. Je pense que si on n'était pas à 30% des voix d'intention de vote dans les sondages, on n'aurait peut-être pas ce genre de difficultés.
Et donc vous attendez que on imagine que le Parlement fasse la lumière là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer maintenant concrètement là-dessus?
Écoutez, puisque l'OLAF est saisi, eh bien ils vont enquêter et nous répondrons volontiers à leurs questions, encore une fois, en toute transparence.
Alors, à propos du Parlement européen, votre parti cherche toujours à constituer un groupe. Hein. Où en êtes-vous de la constitution de ce groupe? On a l'impression que c'est un peu l'arlésienne et souvent annoncé, ce groupe tarde un petit peu à voir le jour.
Écoutez, nous avions dit il y a quelques mois que nous nous donnions un peu de temps, parce que le but c'est de constituer un groupe parlementaire qui sera ensuite pérenne. Tant que les conditions ne sont pas réunies pour faire un groupe pérenne, cohérent politiquement, avec des alliés stables, eh bien nous préférons travailler sous la forme actuelle, c'est-à-dire en étant député non inscrit. Je pense que nous parviendrons à constituer un groupe.
À quelle date?
Je donne pas de date. Ce sera, à mon avis, dans les prochains mois. Ça dépend d'alliés potentiels qui sont des députés de différentes nationalités. Ça dépend des situations propres à chaque pays, propres parfois aussi à chaque parti politique. Encore une fois, le but, c'est pas d'avoir un groupe pour avoir un groupe. C'est pas d'avoir un groupe pour avoir un certain nombre de moyens supplémentaires. C'est d'abord d'avoir un groupe pour cohérent politiquement avec des alliés qui partagent nos positions sur l'Europe pour la défense d'une Europe des nations souveraines, des peuples libres. Ça n'est pas de faire une espèce de combinaison politicienne ou un groupe technique, notre objectif. Voilà, donc on préfère se donner un petit peu de temps, et si ça vient que dans quelques mois, c'est pas grave du tout.
Dominique Albertini.
Il y a eu aux dernières européennes des députés plus nombreux que jamais élus sur des positions proches de celles du Front National en France et ailleurs. Comment expliquez-vous du coup que ce groupe n'ait pas encore vu le jour alors que jamais les conditions n'avaient semblé aussi favorables?
Parce qu'il y a plusieurs sensibilités, on peut le dire, dans la mouvance souverainiste au Parlement européen. Il y a des nationalités nombreuses, des sensibilités politiques, des partis politiques qui ont chacun leur spécificité, et par conséquent le fait de travailler en commun n'est pas toujours quelque chose d'évident. Nous y travaillons, il y a des députés avec lesquels nous avons de bonnes relations, même quand ils sont dans des groupes qui sont dans d'autres groupes. Mais voilà, l'essentiel, c'est peut-être parfois de se retrouver sur un certain nombre de votes sans forcément être dans les mêmes groupes. Encore une fois, cette question du groupe parlementaire au Parlement européen n'est pas quelque chose d'absolument fondamental. Nous entendons y parvenir, nous espérons le plus rapidement possible, mais ça ne nous empêche pas de faire un travail actuellement de fond. Nous sommes présents dans toutes les commissions, nous pouvons sur tous les sujets à la fois défendre nos positions et alerter l'opinion publique chaque fois que c'est nécessaire. Si nous avons un groupe, encore une fois, nous aurons quelques moyens supplémentaires, mais ça n'est pas aujourd'hui un handicap majeur dans l'exercice de notre mandat.
Et par rapport à la constitution de ce groupe, on est d'accord, vous ne passerez aucun accord avec les grèves que d'Aube Doré?
Bien sûr que non, mais ça a été 10 fois tranché. Toujours dit précisément que nous ne ferions un groupe qu'avec des alliés politiques avec lesquels nous partageons l'essentiel de valeurs communes. Donc il n'est pas du tout question de, encore une fois, de faire un groupe pour faire un groupe avec n'importe qui.
Mais je vous posais la question parce que on a récemment vu Marine Le Pen apporter son soutien à des extrémistes italiens qui tenaient une réunion fin février à Rome, où étaient non seulement présents les néofascistes italiens de Casa Pound, mais aussi des membres de Pegida, le mouvement islamophobe allemand, ainsi que des sympathisants d'Aube Doré. Ça fait quand même un petit peu mauvais genre, non?
Je crois qu'il faut éviter les amalgames. La manifestation à Rome était organisée par la Ligue du Nord, c'est un de nos alliés, la Ligue du Nord qui est dirigée par Matteo Salvini. Comme toute manifestation de rue, il peut y avoir au sein de cette manifestation.
Mais a priori, ils avaient été invités.
Mais c'est possible, mais ça, c'est la vie politique italienne, si vous voulez. Nous, on fait pas d'ingérence, on est pour la souveraineté des États. Donc, le fait que la vie politique italienne fonctionne pas comme la vie politique française, qu'un certain nombre de ces gens que vous qualifiez d'extrémistes, ils faisaient partie des différentes coalitions gouvernementale de Silvio Berlusconi, par exemple. Voilà, c'est propre à l'Italie. C'est le fonctionnement de la vie politique italienne. Nous, nos alliés, c'est la Ligue du Nord, c'est pas les petits groupes que vous citez. Et c'est avec eux que nous travaillons au Parlement européen. Ensuite, l'organisation de la vie politique italienne, ça ne nous concerne pas de façon directe.
Donc il faudra encore attendre quelques semaines, quelques mois pour avoir un groupe...
Probablement, oui.
D'accord. D'ici la fin juin, on ne sait pas.
C'est un peu compliqué à savoir. Encore une fois, pas la peine d'une échéance précise.
Allez, une dernière question concernant l'Europe. Hein. La Commission européenne avait proposé d'accorder 2 ans supplémentaires à la France pour amener son déficit public sous la barre des 3%. La proposition a été acceptée ce mardi par les ministres européens des Finances. Paris a donc jusqu'en 2017 pour amener son déficit à 2,8%. Votre réaction, Nicolas?
Voilà, comme d'habitude, on apporte notre copie à M. Juncker qui dit si c'est bien ou si c'est pas bien, qui nous dit si on a la moyenne ou si on n'a pas la moyenne, comme précédemment Nicolas Sarkozy qui a apporté sa copie à Monsieur Barroso. On voit bien que nous avons là le retour de la loi Macron. La loi Macron nous a été d'inspiration ultralibérale, nous a été imposée par Bruxelles, toujours plus de dérégulation, le travail dimanche imposé, un certain nombre de professions réglementées qui sont, remises en cause. Et la contrepartie à cet exercice d'ultralibéralisme, c'est que l'Union européenne nous accorde un petit sursis s'agissant de notre déficit public. Donc on voit bien dans cette affaire que les décisions sont prises à Bruxelles par des technocrates non élus et que nous avons une classe politique et en l'occurrence un gouvernement socialiste qui ne fait qu'appliquer les directives de Bruxelles sans aucune marge de manœuvre. Et bien c'est ce que nous dénonçons, ce carcan de l'Union européenne dont il faut se défaire en remettant en cause les traités européens pour retrouver notre liberté, c'est-à-dire la capacité par exemple pour relancer notre économie à nous protéger, à protéger nos industries, à protéger nos emplois, notre capacité à faire du patriotisme économique. Tout ça est interdit aujourd'hui par l'Union européenne et il n'y aura pas de relance économique tant que nous ne nous réarmerons pas face à la mondialisation. Et le seul moyen, c'est évidemment de nous protéger, ce que font d'ailleurs tous les ensembles économiques dans le monde et ce qui est aujourd'hui interdit en Europe.
Marc Perelman.
Juste, on a parlé à un moment d'un report de 3 ans, ce qui a amené à 2018. Il se trouve que politiquement, ce n'est pas anecdotique que ça ne soit que 2 ans, 2017. C'est peut-être une bonne chose pour le Front National d'une certaine façon que la France doit remettre ses finances en ordre pour 2017, évidemment l'année de l'élection présidentielle.
Oui, mais le problème, au-delà de calculs politiciens, le problème, c'est que cette austérité qu'on impose au peuple, en France et ailleurs, elle ne relance pas l'économie. On est dans le cercle vicieux, on n'est pas dans le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on ne fait rien pour relancer notre économie. On a toujours un euro monnaie unique trop fortement évalué, une balance commerciale qui est très fortement déficitaire. On impose de surcroît une austérité qui consiste finalement à matraquer fiscalement les classes populaires et les classes moyennes. Ce n'est pas les plus riches qui payent, ce sont les petites entreprises qui payent 22% d'impôts sur les
sociétés. C'est ce qu'on fait encore avec la Grèce,
Les groupes du CAC 40 en payent 8%, ce sont les classes populaires, 1,3 million de contribuables supplémentaires qui ont été créés en 2013 par le gouvernement socialiste, parmi ceux dont les ressources sont les plus modestes, sont les plus faibles. Donc on voit bien que c'est toujours les classes populaires et les classes moyennes qui souffrent et qui doivent faire des efforts toujours plus importants. Ça n'a aucun effet en termes de relance d'économie. On le voit avec les chiffres du chômage. Le gouvernement est obligé de truquer les chiffres du chômage, de procéder à 47 000 radiations administratives et malgré cela, le chômage catégorie A plus B plus C continue d'augmenter.
Vous utilisez l'expression de truquer.
Oui, parfaitement, parce que le gouvernement aujourd'hui essaye de nous faire croire que le chômage a baissé. Comment? En ne prenant en compte que les chômeurs de catégorie A. Alors que quand on prend les catégories A, B et C, le chômage a augmenté. En retirant des statistiques les chômeurs d'outre-mer. Ce qui est d'ailleurs une discrimination que je trouve scandaleuse. Il faut évidemment prendre en compte nos compatriotes d'outre-mer dans les chiffres du chômage. Et enfin, en procédant à des radiations administratives qui font baisser artificiellement le nombre de demandeurs d'emploi. Donc oui, j'accuse le gouvernement de truquer délibérément les chiffres du chômage pour faire croire qu'il y a une baisse du chômage. Ce qui n'est évidemment pas le cas.
La plupart des mois, le chômage augmente, malgré tout ce trucage que
Absolument.
Vous dénoncez.
Mais il augmenterait de façon encore plus forte dans les chiffres officiels s'il n'y avait pas tous ces mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement.
Pourquoi trucage? Parce que les chiffres, ils sont publics. Et si on va on sur les connaît, documents par la DARES,
Et d'ailleurs, dans tous les calculs, on voit que sur certains aspects, dans certaines catégories, le chômage augmente.
Bien sûr, mais le fait d'abord de faire une présentation erronée en ne prenant en compte que les catégories A, c'est une forme de trucage. Et surtout, les radiations administratives sont un véritable scandale, puisqu'elles sont faites souvent de façon assez arbitraire, il faut bien le dire. Et donc le fait de procéder à des radiations pour faire baisser les chiffres de façon artificielle, c'est quand même une méthode assez scandaleuse.
Allez, venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à l'actualité en France, avec cette proposition de loi PS-UMP sur la fin de vie, un texte débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, texte qui instaure notamment pour les patients atteints de maladies graves un droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Certains y voient là une euthanasie déguisé, c'est votre cas, Nicolas?
Je crois qu'il y a une... peut y avoir, c'est vrai, une dérive assez inquiétante. Je crois qu'il y a une nécessité, d'abord c'est d'éviter sans doute l'acharnement thérapeutique, mais c'est aussi de développer les soins palliatifs. Et si on commence à prendre en compte le souhait exprimé par les patients qui sont en fin de vie, a fortiori des souhaits qu'ils auraient exprimés souvent dans des temps antérieurs, on introduit une grande subjectivité et il peut y avoir une véritable dérive vers l'euthanasie. Moi, je crois qu'il faut s'en tenir à la législation actuelle, à la loi Leonetti actuellement, qui permet à la fois d'éviter l'acharnement thérapeutique et en même temps qui évite cette dérive vers l'euthanasie.
Mais c'est quand même un texte quand même relativement équilibré. D'ailleurs, c'est un texte bipartisan.
D'abord, c'est un texte. Enfin, c'est un texte commun du PS et de l'UMP. Mais enfin, ça, on n'a pas ce que l'habitude. Mais c'est un texte qui, pour l'instant, n'a pas encore fait l'objet de débat à l'Assemblée nationale et n'a pas encore été voté. Donc, ce qui sera intéressant, c'est de voir sous quelle forme il est voté en fonction des amendements qui seront déposés, puisqu'il y a un certain nombre de députés socialistes qui veulent présenter des amendements pour aboutir en réalité à la légalisation de l'euthanasie en France. Mais je crois que nous engageons avec ce texte, tel qu'il est présenté actuellement, sur une mauvaise pente qui consiste à introduire la volonté du patient, c'est-à-dire un élément de subjectivité qui peut conduire à l'euthanasie.
On change de sujet rapidement, il nous reste 3 minutes avant la fin de la première partie. On en vient, si vous le voulez bien, aux mesures annoncées vendredi dernier par Manuel Valls pour lutter contre ce qu'il a appelé l'apartheid. 1 milliard d'euros débloqués sur 3 ans. Parmi ces mesures annoncées, le renforcement de la loi SRU qui vise à contraindre les mairies récalcitrantes à construire plus de logements sociaux. Et pour favoriser la mixité sociale, ce seront désormais les intercommunalités qui seront chargées d'attribuer ces logements. C'est un point positif? Ce sont des avancées positives selon vous?
Non, je crois pas. D'abord, on prive progressivement les communes de leur liberté. Les métropoles ou les grandes intercommunalités sont en train de dépouiller les communes de leur liberté fondamentale, c'est-à-dire de la maîtrise de leur urbanisme et là, dans le cas précis, l'application de la loi SRU.
La loi n'est pas appliquée dans toutes les communes.
Non, mais
la loi SRU n'est pas appliquée dans toutes les communes.
Là où la loi SRU n'est pas appliquée, les communes sont obligées de payer des amendes, qui sont assez importantes, des pénalités financières importantes.
Et désormais, demandera au préfet de...
Oui, mais je crois que là aussi, il y a une dérive assez inquiétante, c'est-à-dire que on essaie d'imposer cette mixité, cette prétendue mixité sociale, qui consiste à essayer de diluer la masse d'immigration que la France a subie au cours des 40 dernières années sur l'ensemble du territoire national. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut remplacer le schéma de l'intégration par le schéma de l'assimilation républicaine. Aujourd'hui, nous avons un parti socialiste et hier une UMP qui défendent un schéma de communautarisation de la France et de la République française, et ça c'est très inquiétant, c'est-à-dire qu'il y a des communautés qui sont majoritaires dans certains quartiers, qui imposent leurs lois, leur mode de vie avec une docilité totale des pouvoirs publics à l'égard de ces revendications. Nous, ce que nous défendons, c'est l'assimilation républicaine, c'est la possibilité pour celui qui aime la France et qui veut participer de la communauté nationale, eh bien c'est d'en faire pleinement partie, à la condition qu'il fasse cet effort d'assimilation qu'on ne demande plus aujourd'hui. Et évidemment, cette assimilation républicaine, elle n'est possible que si on n'a pas 200 000 entrées légales par an, sans parler des dizaines de milliers de clandestins. Or ça, c'est le bilan commun de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, dont je rappelle en la matière qu'il est totalement disqualifié, puisqu'il y a eu 1 million d'entrées légales d'étrangers au cours de son quinquennat.
Allez, très rapidement, on va écouter un petit son de Nicolas Sarkozy, de Manuel Valls, pardon, qui parle de l'extrémisme islamiste. Ils ont parlé la semaine dernière du côté de Strasbourg. Il parlait de l'extrémisme islamiste. Il a fait des propositions, notamment pour lutter contre cet islamisme radical. Écoutez ce qu'il disait à propos de l'extrémisme islamiste, je vais y arriver.
La montée des populismes, la montée de l'extrême droite, en Europe et dans notre pays, s'alimente bien sûr aussi de la montée du djihadisme, du terrorisme et de l'islamisme radical. Au fond, ces deux extrémismes se nourrissent l'un et l'autre et représentent un danger majeur pour notre démocratie, pour notre société et pour notre vivre ensemble.
extrémistes islamistes et extrême droite se nourrissent l'un l'autre, dit Manuel Valls. Vous avez 20 secondes et on va en reparler dans la seconde partie.
Les propos de Manuel Valls sont grotesques, totalement grotesques. Il est aux abois, il est paniqué, il ne sait plus quel argument utiliser contre nous. La vérité, c'est que le Parti Socialiste et l'UMP ont une responsabilité écrasante dans la montée de l'islamisme radical parce qu'ils ont cédé aux revendications communautaires qui ont fait le lit de cet islamisme radical et qu'ils ont organisé l'immigration massive qui touche.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
La seconde partie de Mardi politique, notre invité ce soir, le secrétaire général du Front National, Nicolas Bay. On a juste entendu avant le flash les propos de Manuel Valls qui mettait un petit peu dans le même sac que l'extrémisme islamiste et l'extrême droite. On sent quand même monter en France, Nicolas Bay, l'islamophobie, et ça ne date pas d'aujourd'hui. En stigmatisant, en rejetant une population, y a-t-il pas un danger que cette population-là se radicalise et rejoigne le camp des islamistes?
Non mais il faut être clair, ce que nous dénonçons, c'est l'islamisme radical qui aboutit aujourd'hui au djihadisme, qui est devenu un problème de politique intérieure, alors que ça devrait être un problème de politique étrangère, et à des actes terroristes sur notre sol. Ça nécessite une réponse forte des pouvoirs publics. Ça nécessite évidemment de mettre fin au communautarisme qui se développe en France. Ça nécessite de mettre fin à tous les échecs des politiques de la ville qui ont été menées depuis maintenant 30 ans dans notre pays. Or, la réponse politique n'existe pas. Nous avons, ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire le Parti Socialiste ou l'UMP, n'apportent aucune solution. Pourquoi ? Parce qu'ils sont responsables de cette situation. Parce que le Parti Socialiste fait preuve d'un laxisme total. Aujourd'hui, leur seule proposition après les attentats qui ont frappé la France, c'est de dire on va faire des cours de rééducation ou d'éducation civique pour les djihadistes, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont violé, égorgé, tué, qui devraient être interdits territoire national, déchus de la nationalité française, et au lieu de ça, ils se proposent de les faire venir à l'école pour avoir des cours d'éducation civique. Bon, c'est pas sérieux. Quant à l'UMP, elle est discréditée par le bilan de Nicolas Sarkozy, parce que le bilan de Nicolas Sarkozy, à la fois l'immigration de masse, la création du Conseil français du culte musulman, contrôlé par l'UOIF comme partenaire privilégié des pouvoirs publics, alors que c'est une organisation islamiste, la déstabilisation de la Libye, qui est également évidemment à la base du développement de l'islamisme radical dans cette région, et les relations privilégiées avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite, qui sont des soutiens et même des financeurs du djihadisme ou de l'islamisme radical, et bien voilà, toutes ces actions à la fois du PS et de l'UMP les discréditent totalement. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qu'avait dit le Front National depuis maintenant très longtemps, c'est-à-dire que l'immigration massive génère le communautarisme génère l'islamisme radical génère le terrorisme, et bien aujourd'hui, malheureusement, ça apparaît comme une évidence.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'en stigmatisant une population, on ne prend pas le risque que cette population-là se radicalise?
Mais nous, en l'occurrence, nous ne stigmatisons personne. Manuel Valls, lui, stigmatise le Front National, ses électeurs, ses dirigeants. Nous disons simplement nous respectons les croyances, nous respectons tous les Français qui aiment la France, sont attachés à la communauté nationale, quelles que soient leurs croyances religieuses, et nous sommes attachés à la liberté pour chacun d'avoir une religion, ou d'ailleurs de ne pas en avoir. Mais en revanche, nous estimons que les pouvoirs publics ne doivent faire preuve d'aucune faiblesse à l'égard de ceux qui ont des revendications politico-religieuses et qui veulent modifier les lois de la République pour les mettre en adéquation avec des principes religieux.
Dominique Albertini.
Puisqu'on parle d'immigration et de communautarisme, j'aimerais avoir votre avis sur une expression qu'on entend dans la bouche de certains membres du Front National, pas chez d'autres qui la condamnent, c'est l'expression « grand remplacement » qui désigne un processus supposé de remplacement des populations françaises de souche par d'autres populations, françaises ou non, mais d'origine extra-européenne. J'aimerais savoir si c'est un mot qui est, comment dire, aligné avec la doctrine officielle du Front National ou non.
Ça ne fait pas forcément partie du vocabulaire du Front National, au sens où c'est une expression qui vient d'un intellectuel, M. Renaud Camus, mais ce que nous constatons en revanche, dans beaucoup de quartiers malheureusement, c'est que les populations françaises ont été remplacées par des populations immigrées qui sont arrivées massivement.
Et donc ne rejetez pas?
Non, mais c'est pas ce ça. Concept. Moi, j'utilise pas ce mot au sens où je considère pas qu'il y a que ça résulterait d'un plan méthodiquement organisé. Ce que je constate simplement,
est-ce que c'est une réalité?
Non, ce que je constate simplement, c'est que les puissances d'argent On poussait à une immigration de masse pour peser à la baisse sur les salaires et les droits sociaux des travailleurs français, que l'ensemble de la classe politique, UMP, PS confondus, ont laissé se développer cette immigration massive, d'autant plus que nous n'avons plus le contrôle de nos frontières, et que ça aboutit, c'est vrai, aujourd'hui, à ce qu'il y ait des quartiers entiers où les lois de la République ne s'appliquent plus, à des quartiers entiers où des communautés étrangères ont remplacé les populations françaises. Voilà, maintenant, je ne dis pas que ça procède d'un complot national ou international, mais en revanche...
Mais vous utilisez toujours quand même le terme de remplacement. Vous dites remplacer, donc vous parlez du terme de remplacement. Non,
de fait, je constate que dans certains quartiers, dans certaines villes, les populations françaises sont parties et en raison de la pression migratoire. C'est de ça dont il s'agit. La pression migratoire est devenue tellement forte dans certaines villes ou certains quartiers que les populations françaises sont parties. On le voit d'ailleurs très bien dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, on le voit comme dans des villes comme Roubaix. Voilà, je crois que c'est une évidence.
Florian Philippot, à propos de cette expression, parle d'une expression racialiste. Vous seriez d'accord avec lui ?
Je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais encore une fois, ce n'est pas tellement la question du vocabulaire, c'est surtout la question de cette immigration massive qui non seulement porte atteinte à notre économie, dans un pays où nous avons, je le rappelle quand même, près de 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, mais menace notre identité et notre sécurité de façon très concrète avec, encore une fois, le développement de l'islamisme radical qui aboutit à des actions terroristes sur notre sol.
Allez, on en vient au gros sujet de cette seconde partie, les élections départementales. Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National, est notre invité ce soir dans Mardi Politique. On va débuter d'abord par ce sondage étonnant paru hier, hein, selon une enquête Harris Interactive. Votre parti est crédité de 30% d'intention de vote au départemental, mais une majorité de Français, 55%, juge que l'élection de conseillers départementaux frontistes serait une mauvaise chose. Un dernier chiffre assez surprenant, non, Nicolas Bay?
Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a sans doute près d'une majorité de Français qui pensent que ce serait une bonne chose qu'il y ait des conseillers départementaux Front National. Je crois surtout que ce serait l'exercice le plus élémentaire de la démocratie, puisqu'aujourd'hui, avec 25% des suffrages aux dernières élections européennes, par exemple, nous ne sommes représentés que par 2 députés à l'Assemblée nationale en raison du mode de scrutin majoritaire qui a été fait pour nous écarter de la vie politique.
Mais 23 députés au Parlement européen.
Oui, je crois que maintenant, compte tenu des résultats que nous allons sans doute obtenir pour ces élections départementales et qui s'annoncent, c'est vrai, élevées, nous aurons la possibilité d'avoir des élus dans de nombreux départements, malgré ce mode de scrutin majoritaire. Et je crois que d'une façon générale, il y a une vraie dynamique autour du Front National qui rassemble aujourd'hui très largement les Français qui sont déçus aussi bien par la droite que par la gauche et qui voient dans le Front National une vraie alternative politique, loin des caricatures qui ont longtemps été colportées. Je crois que la différence entre aujourd'hui et ce qui se passait il y a encore quelques années, c'est que le Front National est perçu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un mouvement qui défend le peuple de France, alors qu'on a une classe politique UMPS qui défend d'autres intérêts que ceux du peuple.
Marc Perelman.
Alors vous venez de parler de score élevé, évidemment on va vous poser la question. Qu'est-ce que vous espérez concrètement?
Moi, je fais pas de prédictions chiffrées. Je constate que les sondages aujourd'hui nous créditent de résultats qui seront sans doute très bons pour ces élections départementales. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire si on va faire 20%, 25%, 30%. Ce sera aux Français d'en
Est-ce
décider.
Est-ce que vous espérez gagner un département?
Je pense que le Front National va confirmer son statut de premier parti de France. D'autant plus que nous sommes le mouvement politique le plus présent pour ces élections départementales. C'est nous qui avons le plus grand nombre de cantons couverts par des candidatures.
Combien 98%, c'est ça?
Oui, 98% de la population aura la possibilité de glisser un bulletin de vote bleu marine dans l'urne le 22 mars, alors que l'UMP ou le PS ont un taux de couverture d'environ 80%. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes peut-être d'ores et déjà le premier parti de France en termes de couverture. Je pense que nous pouvons l'être dans les urnes le 22 mars. Nous pouvons nous qualifier pour le second tour dans de très nombreux cantons, gagner des cantons au deuxième tour. Quant à gagner un département, je pense que ce sera quand même une prouesse extraordinaire, mais ça n'est pas totalement inenvisageable.
Quels sont les départements que vous visez? On parle du Vaucluse, du Var, de l'Aisne, de l'Oise.
Écoutez, il y a une carte qui a été faite par le Parti Socialiste qui cite ces départements-là. Ce sont des zones de force du Front National. J'espère que la dynamique sera telle que nous gagnerons dans ces départements beaucoup de cantons. Mais encore une fois, moi je suis pas Madame Soleil et je suis pas là pour faire des pronostics. Nos candidats sont en campagne, sont sur le terrain. Tout a été fait par le Parti Socialiste pour dissuader les Français de s'intéresser à cette élections départementales. Ils ont modifié le mode de scrutin. Ils ont redécoupé les cantons en fonction des petits intérêts du Parti socialiste. Les prérogatives, les compétences des conseils départementaux n'ont toujours pas été définies par la loi. Ça a fait l'objet de débats législatifs cette semaine. Bref, on a tout fait pour que les Français se désintéressent du département. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont un objectif bien précis, c'est la suppression pure et simple des départements. Ce que disait Manuel Valls il y a quelques semaines.
Il est revenu en arrière là-dessus.
Oui, il est revenu en arrière temporairement, mais clairement, il y a deux schémas qui s'affrontent dans l'organisation territoriale de la France. Nous, nous défendons l'État-nation, le département et la commune, parce que le département et la commune sont des échelons de proximité et d'efficacité auxquels les Français sont attachés, alors que nos adversaires, le Parti Socialiste, mais également l'UMP, qui est très ambigu sur ces sujets, défend un autre schéma, l'Union Européenne au détriment de la nation, les hyper-régions, ces 13 grandes régions sont tellement vastes qu'elles sont tous au fin d'échelon de proximité au détriment des départements et des intercommunalités qui aujourd'hui se substituent aux communes, récupèrent l'essentiel des libertés communales et éloignent les citoyens des centres de décision.
Néanmoins, sous la pression des radicaux de gauche, les départements vont continuer à exister au moins pendant quelques années. Ils garderont pas mal de leurs prérogatives, la solidarité, les collèges, la gestion des voiries. Donc les départements ne sont pas des entités creuses. Elles continuent à exister, elles vont continuer à exister dans les mois qui viennent et les années qui viennent.
Bien sûr, et d'ailleurs, nos élus, que j'espère nombreux dans les conseils départementaux, défendront une baisse de la fiscalité, le maintien des services publics, une politique sociale de qualité, avec en particulier une valorisation de l'aide aux personnes âgées, une meilleure prise en charge et un meilleur soutien aux personnes handicapées. Il y a des possibilités d'action importantes dans les départements. Il faut également renforcer la sécurité, notamment sur les collèges. C'est un domaine direct de compétence des départements. Beaucoup de collèges sont aujourd'hui touchés par la délinquance, par les rackets, par les trafics en tout genre. Il y a évidemment une action à mener au niveau des départements, et puis il faut lutter contre le clientélisme et contre le communautarisme qui se développe aussi dans les politiques départementales. Je pense notamment au respect absolu de la laïcité dans les crèches et dans les établissements scolaires d'une façon générale. Ça doit être là aussi une priorité de la part des collectivités territoriales et notamment des départements.
Un petit mot sur la façon dont vous avez recruté vos candidats. On rappelle leur nombre, 7600 en comptant les suppléants. C'est un nombre de candidats assez, c'est très important. C'est la première fois que vous arrivez à recruter autant de candidats. Comment vous êtes organisé, sachant que vous-même, en tant que secrétaire général, c'est vous qui êtes la cheville ouvrière pour toute l'organisation du parti.
Eh bien, nos candidats ont été souvent présélectionnés en quelque sorte par nos secrétaires départementaux, par nos équipes locales. Souvent, les candidats, d'abord, je le rappelle, pour 1200 d'entre eux, ce sont des élus municipaux du Front National qui sont déjà bien ancrés dans la vie politique locale. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Ils sont implantés au moins depuis les élections de l'année dernière. Parmi nos candidats, il y a beaucoup de militants, de responsables de canton, de responsables de communes qui sont investis dans le Front National et qui nous ont apparu avoir un bon profil pour être candidats, pour porter nos couleurs. Je crois que la force du Front National dans cette élection départementale, c'est d'avoir 7648 candidats qui sont représentatifs de la France. Il y a parmi nos candidats des ouvriers, des artisans, des employés, des fonctionnaires, des retraités,
étudiants. J'ai vu qu'il y avait une personne de 99 ans qui était suppléante.
Oui, qui est suppléante, qui est une militante de très longue date, qui a été candidate à beaucoup d'élections et qui a souhaité à nouveau être engagée dans cette bataille. Donc elle est suppléante dans un petit canton dans le Cantal. Ça, c'est plus anecdotique, mais d'une façon générale, je crois que la force du Front National, encore une fois, c'est d'avoir des candidats qui sont représentatifs de la France. Parce que ce que je vois, moi, c'est que dans les candidats du Parti Socialiste, il n'y a pas un seul ouvrier. Et ça montre bien que nous avons aujourd'hui une classe politique qui est largement déconnecté des réalités. Et d'ailleurs, j'ai trouvé assez indigne le flicage dont nos candidats ont fait l'objet et d'ailleurs qui a abouti à trouver quelques personnes qui ont commis des écarts sanctionnées.
Il n'y en a plus que quelques-unes quand même.
Il y en a quelques-unes. Il y en a 10 ou 15 en tout sur 7648, c'est-à-dire que 99,9% de nos candidats se comportent parfaitement bien, sont irréprochables.
Le problème, c'est que les candidats dont vous parlez là, certains ont lancé quasiment presque des appels au meurtre. Hein. On a des propos ouvertement xénophobes, racistes.
Mais écoutez, je vais vous répondre là-dessus.
C'est quand même très gênant d'avoir. Oui. Même s'ils sont une quarantaine, une cinquantaine.
Non, ils ne sont pas une quarantaine, une cinquantaine. D'abord, ils sont une petite dizaine. Ils ont tous.
Là, je pense que les chiffres. Non. On ne sera pas d'accord sur les chiffres. Non. Je pense que Dominique Albertini sera plutôt d'accord avec moi.
Ils ont
une trentaine au comptage.
Oui, écoutez, ils ont tous été sanctionnés très fermement.
Et tous. J'ai l'impression que, par exemple, une candidate en Seine-et-Marne qui s'est félicitée de l'explosion d'une boucherie halal dans une commune de son département, résultat, elle a simplement simplement été recadré. Comment ça se fait ?
On va pas faire le point pour chacun de ces candidats, mais de façon systématique, ils ont été soit exclus, soit suspendus, soit l'investiture leur a été retirée. Mais moi, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on contrôle les candidats des autres formations politiques avec la même acuité qu'on l'a fait pour les candidats du Front National. Et j'aimerais bien que les partis politiques, soit le PS ou l'UMP, fassent
vous
preuve.
Fassent preuve de la même fermeté
à l'égard de leurs candidats. Ben, je vais vous donner quelques exemples, puisqu'on en parle. Monsieur Razi Hamadi, député de Seine-Saint-Denis, qui a tenu des propos racistes au municipal de 2014. Là, c'est pas un candidat dans un petit canton, c'est pas un primo candidat. C'est quelqu'un qui est député socialiste. Un maire adjoint socialiste de Vaux-en-Velin, qui est poursuivi pour des propos antisémites, monsieur Ahmed Chekab. L'ancien maire de Montbéliard, Jacques Elias, socialiste, qui a traité son adversaire de saloperie de Turc, je cite. Le Cambadélis qui récemment dans un tweet a assimilé l'État d'Israël à l'État islamiste. Voilà, la différence simplement c'est que nous au Front National lorsque nous avons quelqu'un qui commet un écart, eh bien il est immédiatement sanctionné avec fermeté alors que dans les autres partis, eh bien c'est une impunité totale. Je prendrai également l'exemple de monsieur Vialat, député maire UMP de Sifour qui expliquait que les casseurs étaient, je cite, des descendants d'esclaves. Voilà, et là encore une fois, voilà, ce sont des responsables politiques importants. Ce sont des parlementaires, ce sont des maires qui sont en exercice. Voilà. Eh bien, à l'égard de ces gens-là, on n'exige rien, aucune sanction. On ne demande pas à M. Cambadélis ou à M. Sarkozy de s'expliquer sur l'attitude de ses candidats ou de ses élus.
Dominique Albertini.
Est-ce qu'il ne serait pas aussi simple de reconnaître que le Front National est un parti qui se développe, qui s'est fixé comme objectif d'être présent partout, même dans des endroits où il est peu ou mal implanté, et donc du coup il est parfois un peu dépassé par sa propre croissance et qu'il est conduit à recruter peut-être un peu au-delà de ce qu'il souhaiterait, des profils qu'il n'aurait pas forcément désirés.
Écoutez, monsieur Albertini, ce serait vrai si c'était des centaines et des centaines de cas. Ça reste des cas très marginaux par rapport à 7648 candidats du Front National. Voilà, alors évidemment, comme dans toutes les organisations humaines, on n'est pas à l'abbaye d'avoir quelqu'un qui commet un écart, une indiscipline, ou qui a une attitude qui est contraire aux idées, aux valeurs que nous défendons. Et bien dans ce cas-là, nous devons être jugés sur la fermeté, la promptitude de notre réaction. Et en l'occurrence, le Front National est irréprochable dans la façon dont il traite ces cas-là, contrairement à l'UMP OPS.
Mais un simple recadrage, est-ce que ça suffit dans ces cas-là? On parlait de sa candidate en Seine-et-Marne, est-ce que ça suffit?
Écoutez,
ça veut dire quoi recadrer quelqu'un? Il peut mal parler?
Non, mais il y a des candidats qui ont tenu des propos qui sont graves et qui sont exclus du Front National. Voilà. Ceux simplement qui commettent des écarts par rapport à la ligne ou des plaisanteries de mauvais goût, ils peuvent être rappelés à l'ordre sans être forcément exclus. Mais encore une fois, ayez la même exigence à l'égard de tous les partis. Ayez cette exigence, interrogez les représentants de l'UMP et du PS pour voir quelles sont les sanctions qu'ils ont prononcées contre des députés ou des maires qui ont tenu des propos absolument scandaleux.
On le fera, Nicolas. Juste une précision. Est-ce que vous avez recruté pour ces élections des membres de groupuscules identitaires?
Non, nous recrutons, nous rassemblons des Français qui viennent d'horizons politiques et sociologiques très divers. Il y a parmi nos candidats des anciens socialistes, il y a parmi nos candidats des anciens UMP, il y a aussi, c'est vrai, des anciens de la mouvance identitaire. Cette mouvance est d'ailleurs assez hétéroclite, donc
Ils tiennent sur certains points, notamment sur l'immigration, un discours assez radical, hein, les
identitaires. Écoutez, quels que soient les engagements qu'ils ont eus dans le passé, s'ils sont candidats du Front National, ils défendent les positions du Front National. Nous avons encore une fois des ralliements qui viennent d'horizons très divers. Et nous assumons aujourd'hui, le Front National se développe. Aujourd'hui, il rassemble des Français, non plus sur ce vieux clivage droite-gauche qui est totalement dépassé, mais sur le véritable clivage. D'un côté, les patriotes que nous sommes, de l'autre, les mondialistes. Et notre objectif, ce n'est pas de mettre les Français dans les petites cases, c'est de les rassembler pour défendre les droits fondamentaux du peuple français.
Depuis plusieurs semaines, on voit l'exécutif qui met en garde contre la montée du Front National. Le Premier ministre Manuel Valls est allé même plus loin dimanche en disant sa peur que la France ne se fracasse contre le Front National. Ce sont ces mots. Une petite réaction. Nicolas Sarkozy, lui aussi, utilise des mots assez durs et il utilise notamment cette expression FNPS. Comment vous réagissez
Écoutez, on savait que Nicolas Sarkozy n'avait pas de vision. On sait maintenant qu'il n'a pas d'imagination. Parce que je dois dire que c'est quand même pas très convaincant comme formule. D'autant plus que ce qui a fait monter le parti socialiste, c'est d'abord les promesses non tenues de Nicolas Sarkozy. Et ce que nous constatons, c'est que c'est bien l'UMP ou des voix à l'UMP qui ont appelé à voter socialiste contre le Front National lors de la dernière élection législative partielle du Doubs. Quant aux propos de Manuel Valls, ils sont un peu inquiétants de la part d'un Premier ministre qui manque totalement de hauteur, qui perd totalement son sang-froid. On se demande un peu s'il est dans son état normal. Et c'est vrai que le voir en directeur de campagne du Parti Socialiste, socialiste, mener la campagne sur le terrain au profit du Parti socialiste en agressant le Front national en toutes circonstances avec deux mots, c'est vrai, extrêmement durs, qui nous laissent d'ailleurs relativement indifférents, mais qui sont sur le principe choquants. Eh bien, c'est d'autant plus inquiétant qu'il est quand même responsable aujourd'hui du gouvernement. Il est le et il devrait s'intéresser au chômage, s'intéresser à la pauvreté, s'intéresser à l'insécurité. Au lieu de ça, il n'est capable de faire qu'une chose, c'est de combattre le Front national.
Merci beaucoup, sans grand succès d'ailleurs. Nicolas Bay, d'avoir répondu à notre invitation. À la semaine prochaine. Merci.